Paix sur toi, j'interromps cet épisode juste extraordinaire pour t'annoncer que je fais une conférence historique le 7 septembre à l'Olympia. Tu as bien entendu, dans la salle mythique de l'Olympia, le 7 septembre 2024. Pour nous rejoindre, j'ai mis le lien sous cet épisode. Rejoins-nous vite et rapidement parce que les places sont limitées. Ça va juste être extraordinaire et on va parler de mémoire et surtout comment ta mémoire est illimitée. Je compte sur ta présence. À très vite.
Pour toi, ce serait quoi les trois bonnes pratiques LinkedIn? Une personne qui nous écoute, qui est sur LinkedIn et qui n'arrive pas à percer, ce serait quoi les deux, trois pratiques à mettre en place?
Alors, la première pratique est la plus sous-cotée pour avoir justement un profil LinkedIn qui cartonne, qui a un vrai potentiel de conversion. Donc, pas seulement faire des vues, mais faire arriver les clients. En général, c'est l'optimisation de profil.
Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous.
Paix sur vous, bienvenue dans le podcast Connaissance illimitée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Mignot qui est entrepreneur, conférencière, LinkedIn Top Boss et prochainement auteur d'un livre, on en parlera, et de ce processus d'écriture. Bonjour Caroline, comment tu vas?
Salut Mohamed, merci pour ton invitation, ça va hyper bien et ravi de faire connaissance avec tes auditeurs.
Yes, super, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Parce que moi je t'ai présenté rapidement. Qui tu es aujourd'hui?
Avec plaisir. Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 93. Après, j'étais un pur produit sciences sociales. J'ai étudié la stratégie de marque et le branding spécialisé en positionnement. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sciences humaines, de sciences sociales. Et je suis arrivée aux États-Unis où j'ai passé 8 ans de ma vie à travailler dans ce qu'on appelle le growth marketing. Et qu'est-ce que c'est que cette discipline? C'est tout simplement comment maximiser tes perfs. Donc, avoir plus d'impact avec moins de budget. Tu es censé me dire, mais Caro, c'est le but du marketing. En fait, la façon dont on fait du marketing à l'ancienne en France ne reflète pas toujours cet état d'esprit très frugal de faire attention à ce qu'on dépense, de essayer de faire dépenser les gens plus, mais mieux. Donc
D'accord.
voilà, le marketing, c'est pas juste dépenser de l'argent aveuglément. On fait bien notre travail et l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs, les marketeurs à faire des boîtes plus rentables, à pas jeter leur budget par les fenêtres. Et pour ça, aujourd'hui, je suis moi-même devenue entrepreneur dans le marketing et je développe des outils et des services pour aider justement les professionnels à mieux gérer leur stratégie de contenu, à mieux gérer leur partenariat, à mieux gérer leur prospection. Et j'ai aussi un podcast, Marketing Square, qui documente un peu tout ce que je défriche sur le terrain.
Wow, super, c'est juste incroyable. Et dans ta présentation, t'es passé super rapidement. T'as dit oui, je suis parti aux États-Unis 8 ans, mais comment tu t'es dit aujourd'hui je vais arrêter la vie parisienne et aller à l'autre bout du monde pour aller travailler là-bas et sur un domaine aussi particulier parce que tu fais de la science sociale où tu étais vraiment sur l'humain et d'un coup tu t'es dit je vais aller faire du marketing.
Alors, j'étais vraiment sur l'humain et en même temps, on a tous eu 21 ans. J'avais vraiment hâte de gagner ma vie. Donc, dès que j'ai fini mon master, je me suis dit, comment est-ce que je peux rapidement partir à l'étranger? Je voulais absolument aller à l'étranger au moins 6 mois parce que, je te fais une confidence, j'étais nulle en anglais, donc c'est pas reluisant. Je suis pas partie parce que j'ai eu une opportunité, on est venu me chercher, on s'est battu pour m'avoir. Pas du tout. J'ai galéré à trouver un stage à l'étranger parce que c'était ma seule voie de sortie. J'avais des super bonnes notes et en anglais, j'étais la dernière du dernier groupe de niveau. Enfin, limite, tu sais, les profs m'ont jamais mis au-dessus de 10 à aucun examen. Et du coup, au bout d'un moment, on m'a dit, là, ça fait tâche. Donc, prends-toi en main, ma grande. Et du coup, j'ai galéré. J'ai bossé des milliers d'heures pour préparer des entretiens qui étaient en général appris par cœur, où je comprenais à peine la question du mec et je récitais un truc que j'avais appris pour te dire à quel point c'était le plan était parfait, ça a
Mais
fini par payer.
ça a payé parce que beaucoup de persévérance, tu avais une bonne stratégie, hein. Tu savais répondre, mais est-ce que c'était la bonne réponse? On ne sait pas.
En fait, le truc qui m'a beaucoup aidée, c'est que comme je postulais aux États-Unis, j'étais tout le temps à distance. Et un de mes énormes hacks quand j'étais étudiante, c'est que du coup j'avais tapissé le mur derrière moi. Vous savez, vous avez votre écran et moi j'avais un mur. Et sur ce mur, j'avais fait des scénarios. Mais vous savez, comme les tueurs en série, quand
D'accord.
ils tracent, j'avais fait une espèce d'arborescence de
D'accord.
genre, s'il me demande ça, mes cinq qualités, c'est ça, mes trucs. Et après, je faisais semblant de réfléchir et dès qu'il y avait une question, je regardais mes antisèches et je lisais. Et ça m'a quand même permis de décrocher, non pas un stage à New York, mais au final un job. Donc
D'accord.
comme quoi le travail ça paye et puis c'était pas fake it until you make it parce que j'ai bossé comme une malade pour rattraper mon niveau et du coup je suis arrivée aux États-Unis pour mon stage de fin d'études et en fait j'ai tellement adoré que je suis restée à 8 ans. De base j'étais fiancée avec mon copain qui était beaucoup plus âgé, je suis partie, j'avais 21 ans, il en avait 30. Ma carrière était toute tracée, moi je voulais un CDI, me marier, avoir un enfant et en fait New York a fait complètement exploser mes rêves mais finalement, c'était pas si mal. Je pense que j'étais pas prête à avoir une vie si rangée.
Ok, wow. Et est-ce que tu comment s'est passé tes 6 premiers mois? Parce que tu dis que t'es nul en anglais, t'arrives là-bas, le recruteur il commence à parler avec toi en mode allez c'est bon, on va lui donner des tâches. Et toi, comment tu fais les premières semaines, les premiers mois? Après t'es accompagné, je comprends, tu vas pas seul, tu vas avec ton compagnon.
Non, j'y vais toute seule.
Ah tu vas, ah, ton compagnon reste en France et toi tu vas, c'est ça.
Ouais, allez, je te la fais courte, mais je te raconte toute l'histoire. Je pense qu'en termes de stratégie ventriglisse, là, je pourrais avoir un award.
D'accord.
En gros, ce qui se passe, c'est que de base, je postule pour un stage
D'accord.
et je suis prise à ce stage et c'était un stage de chef de produit.
D'accord.
Et l'employeur, Mohamed, c'était Volvic.
OK.
Et à ce moment-là, moi, ce que j'adore, c'est la psychologie, la connaissance illimitée du cerveau. Et j'ai envie de faire un métier très créatif, très analytique. Et là, je réalise, après avoir dit oui, je prends le poste, je réalise que je vais être chef de produit pour de l'eau. Autrement dit, à la fin de chaque semestre, je vais faire un bullshit job où je vais dire, la gamme qu'on a le plus vendue, c'est l'eau 50 centilitres. Du coup, c'est le coloris eau avec le packaging eau,
Oui.
taille de SKU. En fait, il y a aucune créativité quand tu vends de l'eau.
Bien
Volvic,
sûr.
c'était une gamme de un produit. Et du coup,
D'accord.
je me dis, mais Caro, tu vas faire du category management sur de l'eau minérale. Enfin, c'est un mouroir, le truc. Et donc, no offense, mais à ce moment-là, je me dis, aussi intéressant soit cette expérience à New York, je vais être malheureuse comme une pierre dans ce boulot. Et là, je fais une énorme dinguerie. Je rappelle le recruteur, donc c'était Dan Waters, et je dis, je suis désolée, je suis hyper mal à l'aise de vous dire ça. Je sais que j'ai accepté le job. Le mec, en plus, c'était la honte parce que tu sais, on se souvient quand on est étudiante, dès que quelqu'un nous dit oui, on a envie de lui offrir une Rolls-Royce. On est là, genre,
Bonjour.
merci, on pleure et tout. J'exagère, j'avais pas pleuré, mais j'étais trop
Je
contente, tu vois,
comprends.
quand il m'a dit que j'étais
En plus,
prise.
à l'étranger.
De ouf. Et là, je rappelle. Et je dis, en fait, j'ai réfléchi et je vais pas le prendre. Et là, tu sais, je me grille. Là, je me dis, Caro, t'avais une super carte. Tous mes potes, ils sont là. Waouh, Caro, t'es la meilleure. Avec ton niveau de chèvre, t'as décroché un stage à New York alors que tout le monde veut aller là-bas. Et en fait, là, c'est comme si un réflexe autodestructeur. Je me dis, et je m'en suis tellement voulu, Mohamed, tu vas voir la suite. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est à l'intérieur de moi, tu sais, je me dis, je suis pas alignée, je peux pas le prendre. Donc, je vais voir le mec, donc le boss, et je lui dis, je suis vraiment désolée. Mais là, par contre, je monte pas de blanche, hein. Je lui dis, je suis désolée. J'ai vraiment honte de vous dire ça, mais je vais laisser ma place parce qu'en fait, je me sens pas capable, je suis pas excitée par le poste, en fait, mais je suis excitée par votre marque et je suis excitée par tout ce que vous faites. Et en fait, j'adore votre site internet et je sais que vous le faites gérer par une agence et moi, je pourrais vous internaliser tout ça. Du coup, je sais que c'est pas un poste qui est ouvert, mais si vous m'ouvrez un poste d'un CDD sur 6 mois, je vous promets que je vous internalise toutes vos plateformes digitales. C'est ce que j'avais déjà fait en alternance. Et je dis, voilà, je sais que maintenant vous avez toutes les raisons de la terre de plus avoir confiance en moi, mais si vous me laissez ma chance, je la laisserai pas passer. Et c'est vraiment le job de mes rêves. C'est être avec vous, grandir à vos côtés, mais sur un poste différent qui va me permettre d'être vraiment utile. Et là, le mec, évidemment, il est un peu choqué, tu vois. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai 21 ans, il doit se dire, mais pour qui elle se prend?
Ça se passe à New York, t'es déjà sur place quand tu fais ça.
Non,
Attends,
Non,
France.
je suis pas déjà sur place. À ce moment-là, on allait lancer les démarches de visa, mais le mec a quand même recalé. Tu sais, maintenant qu'on est de l'autre côté, on se dit un recrutement, c'est difficile. T'es obligé de recaler genre 10 personnes. Ça se fait pas d'aller repêcher un candidat en disant finalement, tu vois, une fois que t'as dit non, t'as dit non. Donc j'ai fait un truc vraiment pas cool. Tu vois, je m'en souviens encore. J'ai encore honte rien que de t'en parler. Et je suis toujours reconnaissante à mon boss parce que figure-toi que les mois défilent et tout le monde, je suis un peu la risée de ma classe. Tout le monde me dit bah voilà, Caro, t'as voulu faire la trop belle, et ben maintenant t'es le bec dans l'eau, et là, Mohamed, retour de karma, je me prends que des refus. Personne me veut. Les stages les plus éclatés me disent non merci, c'est pas chez nous, mademoiselle. Et je me dis ouah, j'ai l'œil et tout. Et pendant 3 mois, je trouve rien et je suis dans les dernières. À la base, j'étais hyper en avance, et au final, je suis dans les dernières à pas trouver de stage. Et là, le téléphone sonne. Le mec me rappelle, mais je l'attendais même plus, hein. Le mec me rappelle et me dit oui, désolé pour le délai. En fait, ben c'était Danone, donc tu vois les délais, tout ça. Il me dit en fait, on a entre-temps, on s'est séparé de notre agence web. C'est parti en cacahuète et en fait, ouais, on va ouvrir le poste et on va l'ouvrir maintenant. Est-ce que vous pouvez commencer dans 2 semaines?
Waouh, incroyable.
Là, je ressors mes fiches, Mohamed, parce qu'entre-temps,
Ouais,
j'avais arrêté d'apprendre. J'étais là, les US, c'est pas pour moi.
tu disais bon, moi je vais repartir sur le français, l'anglais ça me servira plus à rien. Et donc là, t'es reparti sur tes applications Duolingo et tout le reste pour. D'accord.
J'ai
Waouh.
sorti toutes mes fiches, j'ai remis mes post-it, j'ai tout sorti des placards et me suis mis en mode commando 2 semaines pour devenir bilingue. Je force un peu le trait. Et en gros, à ce moment-là, pour te dire, bah, j'ai 21 ans, moi, j'ai toujours été hyper couvée par mes parents. Et le problème que ça a donné, c'est que j'avais peur de tout. Donc, j'étais pas du tout aventurière. En fait, je savais pas que j'étais aventurière, Mohamed, parce que je m'étais pas autorisée à en rêver. J'avais trop peur d'être toute seule, j'avais trop peur de sortir des jupes de ma mère. J'avais le syndrome de la bonne élève jusqu'au cou, toujours première de la classe, toujours performer, rendre les autres fiers. En fait, je m'étais jamais écoutée, je savais pas que j'aimais l'aventure. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai peur de prendre l'avion que j'ai presque pas pris dans ma vie, et j'arrive à New York et je suis verte. Tu sais, j'arrive, cash, c'est le premier jour, je suis à l'étranger, j'ai 21 ans, je suis dans un job où en fait, j'ai à cause de moi, j'ai pris un job trop gros pour moi parce que le mec il m'a dit, tu m'as dit que t'allais tout internaliser, que t'allais monter le service, donc maintenant me déçois pas une deuxième fois. Donc j'ai une charge mentale comme ça, et je fais 7 heures d'avion, je suis en PLS, j'arrive avec des cernes de panda, j'ai trop peur et tout. Et là, le mec, premier jour, il me dit, ah, c'est cool que tu sois là. En fait, on va refaire le site, c'est ta première mission. Demain, tu prends l'avion et tu vas à Los Angeles passer la semaine et briefer l'agence pub pour faire le nouveau site. Et je me retape 7 heures d'avion.
Avec ton niveau d'anglais, ça devait être hippique. Oh, ça devait être juste extraordinaire. La petite française qui arrive en train de leur expliquer en anglais pour faire ça. Je dis qu'elle a jamais fait ça de sa vie. Incroyable.
Jamais j'avais fait un cahier des charges. À l'époque, il y avait pas de ChatGPT. Je me suis quand même débrouillée, mais surtout, ce qui m'a le plus tuée, c'est que je sortais de 7 heures d'avion et j'étais en mode, heureusement, il me reste 6 mois. Là, maintenant, c'est pas avant dans 6 mois que je prends l'avion dans l'autre sens. Et là, le mec, il me dit, premier jour, direction Los Angeles. Et tu sais, je suis là, genre, ouais, j'ai la larme qui coule. Et voilà. Et maintenant, tu sais tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait, du coup, mon départ aux US. Et ça a pas été hyper facile, l'arrivée. Et au final, je suis tombée amoureuse de cette ville et de l'état d'esprit qu'elle m'a inculqué, c'est-à-dire tout est possible, même en partant de en dessous de zéro.
Wow, juste incroyable, mais surtout que t'as saisi des chances, t'as été opportuniste, t'as proposé des choses et ça. À un moment, ça paye. Et c'est après que t'es resté là-bas. Après tes 6 mois, t'as continué avec eux. Et
Je suis
c'est.
restée 8 ans. Je suis restée 2 ans dans ce poste jusqu'à ce que j'ai pas, tu sais, là-bas, il y a des loteries pour les visas. Et
D'accord.
du coup, j'ai postulé pour un visa long terme que j'ai pas eu. Et dans ces cas-là, en fait, bah, c'est hyper cruel là-dessus, les visas. C'est la même chose en France, hein. T'as beau avoir un employeur qui dit oui, si l'employeur, administrativement, il n'est pas legit ou quoi que ce soit, ou il peut pas payer ou attendre, les délais administratifs qui sont très longs, et ben t'es mort. Et du coup, je me suis fait, j'ai eu trop de chance. 2 semaines avant de me faire expulser, que mon premier visa se termine, je me suis fait repêcher par un distributeur de Volvic qui s'appelait Maison Kaiser. Et en
D'accord.
fait, après, je vais pas détailler pour les auditeurs, mais globalement, à chaque fois, je me
C'est de la
suis fait
chance.
sauver la peau, mais genre à 2 jours de la fin de mon visa, et j'ai réussi à rester 8 ans juste
Wow.
avec du ventre glisse et des stratégies de renard.
D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience à l'étranger, ces 8 ans à New York, avec le recul? aujourd'hui, ça te sert à comment tu utilises ce que tu as appris là-bas dans ta vie de tous les jours?
Bah franchement, je me suis découverte et c'est un truc de malade à quel point le voyage et la solitude, ça permet de se rencontrer vraiment. J'ai un autre exemple pour pas parler que de moi. Une de mes amies, Victoire Duhamel, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Elle part, elle est entrepreneur, elle est un peu en quête de sens, en crise existentielle. Cette crise qu'on a toute la vie, hein, c'est pas seulement à 50 ans. Moi, je l'ai eue à partir de mes 11 ans, je pense. Et Victoire, elle se pose plein de questions. Elle se dit, ah, j'ai lancé ma marque dans la cosmétique. J'ai tout pour moi, mais en fait, je suis pas hyper heureuse, quoi. Y a un truc qui manque.
D'accord.
T'as pas le fire, quoi. Il manque un truc. Et elle part à Bali pendant 4 mois.
D'accord.
Et c'est, je te raconte cette histoire parce que c'est vraiment un pattern que j'observe autour de moi. Et elle rentre. Et là, elle se rend compte vraiment. Victoire, c'est une nana qui était sur les réseaux, mais moyennement. Elle faisait des petits trucs, sans grande conviction. Elle aimait bien sa marque, mais pas le flow. Tu vois, pas le feu sacré. Et en fait, en rentrant de ces 4 mois à Bali, elle est complètement changée. En fait, je dirais qu'elle est beaucoup plus concentrée sur elle-même et à l'écoute de ses besoins. Elle est sortie du bois, elle est sortie des jupes de sa mère comme moi, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, elle rentre à Paris et je sais que ça va te parler. À ce moment-là, elle est dans un mindset d'abondance, en fait. Elle écoute, elle prend ce qui vient, elle est beaucoup plus open, beaucoup plus ouverte aux choses que quand elle part. En fait, on est dans des vies où il y a tellement de signaux, il y a tellement de bruit qu'on sait plus capter les intuitions, les interprétations, on sait plus démêler.
On s'écoute plus du tout.
Exactement. Et le fait qu'elle soit partie, qu'elle ait fait ses 4 mois toute seule, qu'elle se soit re-rencontrée, qu'elle ait eu des périodes aussi de galère, hein, parce que c'est ça, partir tout seul, c'est aussi la solitude, mais c'est dans ces moments-là que tu te rends compte vraiment, elle rentre à Paris. Elle rencontre un mec randomly en soirée, il fait de la musique sur TikTok, elle commence à l'aider sur ses sons.
D'accord.
Et en fait, au bout d'un moment, elle sait pas comment lui expliquer, elle lui donne un retour sur un son et elle sait pas lui expliquer, du coup elle le chante. Et le mec lui dit, mais attends, mais t'as une voix de malade. Et en fait, maintenant, elle est à moitié chanteuse, ça cartonne, elle a explosé, la nana, elle a gagné genre 10 000 followers alors qu'elle a galéré pour en avoir 2 000 au bout d'un an d'entrepreneuriat, tu sais, à faire des trucs à moitié. Quand tu le fais des choses avec la moitié de ton cœur, t'as la moitié des résultats. Et là, elle me dit, Caro, c'est la première fois que j'ai le feu comme ça, je peux pas dormir tellement je suis excitée par mon projet, je le sens, ça vibre partout en moi. Et elle s'est trouvée, elle a trouvé sa voie. On sait pas pour combien de temps, on sait pas si ça va marcher, on sait pas si elle pourra en vivre, mais là, elle est alignée et c'est seulement possible parce qu'elle est partie à l'étranger. Elle a réussi à faire taire, en fait, le bruit autour d'elle, à vraiment s'aligner, à s'écouter, à se re-rencontrer, sortir de ce que les autres attendent de toi, les attentes des autres, l'envie de leur faire plaisir, l'envie de correspondre, l'envie d'être intégrée, juste l'écoute de tes besoins primaires. Et c'est l'histoire que je voulais te partager. Et je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui peut-être ont d'autres histoires comme ça. C'est très
D'accord.
courant. Ça dit une vraie chose.
Et donc, c'est ça que tu as vraiment appris là-bas dans cette expérience, c'est d'écouter intérieurement et de suivre le feu intérieur.
Se rencontrer, se laisser de la place. Je pense que toute la première partie de ma vie, j'étais un people pleaser. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Voilà, ma mère, elle était très stressée parce que mon grand frère, il a pas beaucoup travaillé à l'école. Et du coup, bah en fait, moi, elle m'a mis une pression de dingue. J'étais inscrite à toutes les activités périscolaires, fait grec, latin, flûte à bec, piano. Ma mère, dès qu'il y avait une activité, elle était là. Caroline Mignot, mettez-la sur la liste. En fait, j'ai tellement eu ce truc où, tu sais, fallait que je sois bonne partout, que je fasse tout en même temps, que, au final, j'ai eu le syndrome de la bonne élève et je m'étais jamais rendu compte de qui j'étais vraiment. Tu vois, pareil, je pensais que j'étais pas sportive parce que mes parents, ils m'ont poussée à faire du sport. Et en fait, du coup, ils m'ont poussée jusqu'en championnat de France de natation et je détestais y aller. Mais en fait, Mohamed, je suis sportive. C'est pas le sport que j'aime pas. J'aime pas la natation.
C'est ce sport que t'aimais pas. Et t'as fait une généralité parce que t'aimais pas une seule chose et t'as fait une généralité. Et donc, 8 ans à New York, une expérience juste incroyable, interne et haute. Et donc, tu reviens en France et pour devenir entrepreneur, c'est quoi le switch? Qu'est-ce qui te fait partir de là-bas pour te dire, je vais rentrer à la maison, entre guillemets, et me lancer, parce que c'est deux choses. Partir de son environnement et lancer sa propre boîte.
Eh ben, ça va pas te surprendre. C'est complètement cohérent avec ce que je t'ai raconté d'ici là. J'ai rien choisi. J'ai tout subi.
D'accord.
100%
T'as
victime.
pas eu
J'ai
de
su.
vie, hein.
Ventre, il glisse. Ah, ça glisse, je me mets sur le ventre, ça passera plus vite, et ce sera un peu plus fun. Mais j'ai complètement subi les éléments. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 8 ans de bons et loyaux services à New York, je commence à avoir un super réseau, je commence à devenir bonne dans ce que je fais. Et du coup, bah, la réputation fait que plus tu as de la seniorité, plus c'est facile. D'avoir un avantage distinctif, plus c'est facile de trouver un job. Je me fais démarcher dans un super job, le fameux contrat d'expat dont tout le monde rêve, pour une très belle marque dont le logo est le Mont-Saint-Michel, tout fait en France. Je rêvais de bosser pour cette marque depuis longtemps. Ils viennent me voir avec un contrat sur mesure. Et en fait, j'ai appris à l'insu de mon plein gré que même si tu avais signé une promesse d'embauche, tu pouvais te faire planter. Tu vois, finalement, le karma m'a peut-être rattrapé 8 ans après parce que ça a été à mon tour de me faire planter alors que j'avais signé un job. Et je suis rentrée faire mes démarches de visa. J'avais commencé à bosser gratuitement. Enfin, tu sais comment c'est quand tu commences à avoir un peu de galon. 28 ans, tu décroches un gros job. T'es pas là en train de facturer à l'heure. J'avais commencé à faire tout le business plan. J'avais activé tous mes contacts. Et en fait, ils ont changé d'avis pendant les démarches de visa. Une fois mon contrat signé, une fois les frais d'avocat payés. Donc, il y avait pas de signe avant-coureur. Et ça, c'est un peu une leçon de vie. C'est voilà, jusqu'à la dernière minute, c'est jamais bon en fait. Donc faut toujours ça sert à rien de se méfier et ça sert à rien de prévoir des plans B parce que dans tous les cas, t'es tout le temps surpris. Mais ils m'ont planté et je me suis retrouvée en France à 29 balais chez mes parents en plein été, plein mois de juillet. Ils ont changé d'avis, ils ont dit au final on va allouer l'enveloppe budgétaire pour l'ouverture de ta business unit sur une autre zone et je me suis retrouvée en France au milieu de mes cartons et voilà comment je suis revenue à la case départ brutalement.
Et là, tu décides de d'arrêter le salariat et de te mettre à ton compte et de monétiser ton savoir.
Même pas, j'ai encore subi. À
Ah
ce
oui, il y a plein
moment-là,
d'aventures. Moi, j'essaie de faire des transitions, mais en vrai, je suis à l'ouest. À chaque fois que je fais une transition, non, il y a encore quelque chose au milieu que je découvre. C'est cool.
franchement, moi, ça a été un peu un roller coaster et j'étais là, vas-y, maintenant, je suis dessus, hein, je me laisse faire. Mais c'est vrai que la vie m'a vraiment guidée. On dit souvent que j'ai un parcours atypique, mais en fait, j'ai vraiment, à chaque fois que j'ai eu un obstacle, j'étais là, ok, bah, on va faire avec. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée, j'étais pas dans le système français, j'ai dû avoir une assurance maladie, j'ai eu le nez creux parce que, sans mauvais jeu de mots, il y a eu le Covid juste après. Donc, en fait, je me suis dit, je vais prendre une assurance maladie parce que, en fait, j'étais pas assurée et je me suis dit, je sais pas combien de temps ça va me prendre de repartir aux US, surtout que maintenant je pouvais pas rentrer parce que j'avais mon visa en cours, donc l'ambassade ils aiment pas trop les allers-retours, donc je me suis dit il faut que je postule depuis la France, donc je me suis dit Caro, tant que t'es là mets-toi dans le système français et une assurance maladie et essaye d'acheter un appart parce que j'avais mis plein de ronds de côté, mais tu sais quand t'es expat tu vas pas acheter cash, hein, j'avais quand même pas 500 000 balles de côté, donc il fallait que je fasse un crédit et je me suis dit tant que t'es là trouve-toi un CDI, reviens dans le système et tu feras un retour par la grande porte après, donc tu vois là je continue, je suis dans le roller coaster, je m'accroche, ok, je signe un CDI et en fait j'atterris à un poste à l'opposé de ce que j'aime. Moi, j'aime le marketing, j'aime quand c'est trackable, j'ai la passion des chiffres, j'adore diguer dans la data, aller regarder, c'est ça. En fait, c'est pour ça, tu vois, je dis souvent, je suis passionnée par les algorithmes parce que j'aime les gens. Les algorithmes, ce n'est que des gens à grande échelle et de l'analyse macro, des interactions, tout ça. Et j'ai commencé à me spécialiser très tôt dans les algorithmes réseaux sociaux parce que je me disais, mais c'est un peu comme quand t'es à l'envers d'une broderie, c'est pas beau, mais tu vois comment c'est fait, tu vois qui tire les fils et c'est passionnant. Et je trouvais que ça créait un peu le nouvel ordre mondial et pour plein de raisons, sociologiquement, les algos me passionnaient. Donc, je commence à partager un peu mes apprentissages sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'adore LinkedIn parce que je trouvais que c'était un peu le réseau des moches et moi, j'ai jamais trop aimé Insta. Mon délire, c'était pas de poster des photos de moi en bikini et à l'époque, je force le trait, hein. Maintenant, je suis sur Insta. Toujours pas en bikini, j'ai trouvé un autre moyen. Mais à l'époque, l'image que je me faisais d'Insta, c'était les influenceuses. Et moi, j'étais un peu une anti-influenceuse. Donc, je me mets sur LinkedIn et j'écris que des articles longs comme la mort, qui intéressent personne, hyper niche. Mais en fait, petit à petit, bah, tu sais quoi, comme il y avait pas beaucoup de créateurs de contenu, je pense qu'à l'insu de mon plein gré, j'ai commencé à me faire une audience. Et tellement d'audience que petit à petit, ça a commencé à déranger dans mon poste. Parce que j'étais en CDI en France, j'étais directrice com. Et comme je m'ennuyais parce que je faisais que des choses, organiser des salons pro, on me disait un peu, c'était pas sois belle et tais-toi, mais c'était limite, tu vois. On venait me voir pour des cartes de visite, on me faisait faire que des trucs éclatés. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était travailler la stratégie d'acquisition. Enfin, ceux qui nous écoutent, qui sont en marketing, voilà, moi, je voulais des chiffres, je voulais de l'impact réel pour avoir une meilleure paye, passer en CODIR, grimper les échelons. Et du coup, j'étais un peu malheureuse. Ils m'ont un peu mis au placard et j'ai commencé à faire des réseaux sociaux parce que pour m'éviter de mourir intellectuellement.
Et pourquoi tu penses que le fait que tu sois visible sur LinkedIn, ça posait problème?
Bah en fait, tu vois, au début, je travaillais pour j'étais dans le chez le numéro un du transport routier, donc forcément industrie supply chain transport. Je leur remplissais leur webinar là où la publicité ça coûtait un bras. Plus t'es dans des industries qui adressent des hauts tickets. En gros, plus tu vends des produits chers, plus la pub, elle coûte une blinde. C'était 150 euros par lead, par exemple. Et moi, en fait, bah, tout de suite, je découvre la puissance du média organique. En fait, je commence à raconter ce qu'on fait. Je dis, il faut faire une grosse stratégie inbound. Je fais des barronnettes de transport routier avec des partenaires. J'étais spécialisée en partenariat. Je trouve des partenaires stylés. On fait des baromètres du transport. À ce moment-là, on fait chuter les coûts d'acquisition de 150 balles par lead à 5 dollars pour les mêmes leads. Mais juste que les mecs, on leur a apporté de la valeur. Donc en fait, c'est comme nous, hein. Si demain il y a une marque qui nous dit bah tiens, télécharge mon e-book, bah on va beaucoup plus cliquer que si une marque elle nous dit achète mon produit. Donc c'est les mêmes stratégies, sauf qu'à l'époque ça se faisait pas trop, ça venait des US. Donc j'implante ça et le truc fonctionne bien. Et petit à petit, autant ils adoraient parce que je leur remplissais leur webinar et là. Et en même temps, je commence à me rendre compte de la puissance du truc et je me dis Caro, fais aussi ta brand. Occupe-toi de ta marque. Sois pas dans, tu vois, déjà, je bossais pratiquement. Moi, j'ai toujours été, même en poste, j'ai toujours été, comme si j'étais mon propre patron. Et du coup, je bossais, limite jusqu'à minuit tous les soirs, je me cramais le cuir. Et du coup, j'étais là, leur donne pas tout. Fais aussi, ton petit bonhomme de chemin. Et ça a pas plu. Et aujourd'hui, que je forme beaucoup d'équipes à l'usage de LinkedIn, c'est encore bêtement une grosse crainte infondée de la part des annonceurs, des marques qui disent, bah, en fait, on veut pas que les gens qui bossent chez nous, ils postent aussi sur leur sujet d'expertise. Ce qui est débile, parce que Mohamed, si j'avais posté sur la plongée sous-marine ou les requins en Antarctique et tout, ok, ça dissout le message. Mais moi, j'étais en train de devenir une figure montante du marketing et j'étais directrice marketing chez Géodis. Donc, enfin, pour eux, c'était tout bénef. Sauf que jalousie, sauf que l'impression de connaître mieux que les autres. À l'époque, ils me disaient en gros que j'utilisais pas LinkedIn comme il faut. Et voilà. Et ça, c'est très courant dans les boîtes, malheureusement. Tu vois, ils osent pas créer des employés qui sont valorisés, starifiés, parce qu'ils se disent que si les employés, en fait, deviennent un canal par eux-mêmes, ils vont avoir leur liberté, ils vont demander plus. Et au lieu de voir
Demander
les
plus
avantages,
d'argent.
ouais, au lieu de voir les avantages, ils voient les inconvénients.
Et aujourd'hui, toi qui es beaucoup sur LinkedIn, parce que c'est ton premier canal d'acquisition, c'est là-bas où tu es beaucoup tu es top voice. Comment alors? Question simple, comment tu deviens top voice? Comment tu... C'est le truc, question à 1 million. C'est la question à 1 million. Comment moi, je deviens top voice du... Pas du jour au lendemain, mais on va dire en 6 mois ou en 1 an.
Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu.
Alors, Top Voice, déjà, pour ceux, si tu veux, j'ai fait un article sur, où je raconte toute la procédure Top Voice, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que ça n'avait pas été documenté. Donc, je me suis dit, on va lever le voile et je vais raconter les Top Voice de l'extérieur. Grosso modo. Si vous voulez l'article, vous tapez Top Voice Caroline Mignot, vous allez trouver l'article sur LinkedIn. Mais grosso modo, pour ceux qui nous écoutent, qui ont les mains prises, c'est une espèce de main invisible. C'est encore le roller coaster. C'est-à-dire qu'un jour, je vais au Web Summit, je suis à Lisbonne, je me réveille, je reçois un message no reply de LinkedIn qui dit « Félicitations, vous êtes Top Voice ». Et là, je regarde mon associé et je fais « What the fuck ?» Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que Top Voice, c'est pas comme le classement Forbes où tu postules, t'as une attachée presse qui crée un beau dossier, derrière t'attends pendant 6 mois où tu fais voter les gens. Top Voice, c'est une main invisible, c'est t'as tapé dans l'œil d'un rédacteur de LinkedIn News qui trouve que ton contenu il est intéressant, il est distinctif et il fait interagir. C'est les trois axes clés qui font que les Top Voice, ils sont sortis du chapeau. Et c'est un peu comme dans une rédaction magazine, Mohamed, ils vont se dire, OK, qui est-ce qui a un peu affolé l'algo? Qui est-ce qui a un point de vue intéressant? Et en fait, la différence entre LinkedIn et les autres programmes, par exemple Instagram, les badges vérifiés, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est que LinkedIn, c'est un programme Top Voice où en fait, tu es quasiment en partenariat avec LinkedIn. C'est-à-dire qu'on est mis en contact avec d'autres Top Voice, on a un creator manager, manager qui s'occupe de nous. On a des exclusivités produits en avant-première et on a
D'accord.
aussi une responsabilité qui fait que si on viole les clauses LinkedIn, si on fait des choses pas dingues, eh ben on peut se faire retirer notre badge, ce qui n'est pas le cas sur d'autres plateformes. Donc LinkedIn, le programme Top Voice, c'est au-delà du certifié, c'est en gros t'es adoubé par LinkedIn, t'es un peu une ambassadrice.
D'accord. Et toi, c'est juste le fait que régulièrement tu postais du contenu, qu'il y avait beaucoup d'interactions, que les gens appréciaient, qu'à un moment, de fil en aiguille, en vrai, c'est, t'as reçu cette distinction, mais tu t'étais pas parti la chercher.
Ouais, comme je te dis, c'est vraiment ces trois critères. Il n'y a pas seulement l'engagement, il y a aussi l'autorité. Tu vois, typiquement, j'ai des amies qui galèrent à être Top Voice parce que elles travaillent pas nécessairement avec des grands groupes, elles n'ont pas suffisamment fait leurs preuves. La preuve sociale, ça compte. Moi, tu vois, je travaille avec des Adobe, SNCF, HubSpot. Si tu vas sur mon profil, en fait, il y a quand même des garanties. Et LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est un peu que tu montes patte blanche parce que s'ils ont un ambassadeur qui demain fait une dinguerie, en
Bien sûr.
fait, eux, comme je te dis, c'est vraiment un programme de mentorat et ils engagent leur marque. Donc, tu as l'autorité qui est très importante pour eux et tu as aussi l'originalité. Donc, LinkedIn Top Voice, c'est vraiment basé sur des piliers de contenu. Tu as RH, entrepreneuriat, développement, mais ils veulent vraiment créer une diversité de sujets et des experts, du coup, qui sont un peu, je vais pas dire atypiques, parce que franchement, je suis pas une icône de la diversité, je suis une petite blanche française, tu vois. Donc je dis pas que je suis atypique, mais en tout cas, sur les sujets qui sont abordés, ils vont prendre des gens qui ont une patte un peu particulière, pas seulement les patrons du CAC 40,
Bien
parce qu'ils
sûr.
se sont fait beaucoup remonter les bretelles par le passé à cause de ça.
D'accord. Ah oui, et aujourd'hui, pour fermer après la parenthèse sur LinkedIn, c'est pour toi, ce serait quoi les trois bonnes pratiques LinkedIn? Une personne qui nous écoute et qui est sur LinkedIn et qui n'arrive pas à percer, ce serait quoi les deux, trois pratiques à mettre en place tous les jours ou je sais pas, à mettre en place qui permettent de déjà avoir une meilleure interaction et faire mieux faire connaître son contenu.
Alors, la première pratique est la plus sous-cotée pour avoir justement un profil LinkedIn qui cartonne, qui a un vrai potentiel de conversion. Donc, pas seulement faire des vues, mais faire arriver les clients. En général, c'est l'optimisation de profil. Hyper sous-cotée, Mohamed. Et en fait, les marques personnelles, donc les individus, les leaders d'opinion, moi, je les travaille comme des marques que tu as dans le retail, dans la distribution. Donc, en fait, le positionnement, c'est 90% du taf de conversion. Qu'est-ce que j'appelle le positionnement? La catégorie à laquelle tu appartiens. Est-ce que tu es dans la vente? Est-ce que tu es dans le marketing? Est-ce que tu es dans le podcasting? Ton unfair advantage, qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? Et ta preuve sociale, les garanties solides, donc les fameux avis clients, la barre de logo, ce que tu veux. Et en fait, il faut absolument travailler ton positionnement. Aujourd'hui, le gros défaut que je vois, c'est ah, j'arrive à faire des vues ou alors j'arrive pas à faire de vues. Mais du coup, les clients viennent me voir en me disant ça ne se traduit pas en chiffre d'affaires et ça ne convertit pas parce qu'en général, on a un message qui est pas clair. Et le message n'est pas clair parce que le positionnement n'est pas défini en amont. Donc en fait, on fait du contenu qui tape un peu dans tous les sens et sauf là où il faut, ça dissout le message. Ça fait que t'es pas identifiable et c'est un peu comme au supermarché. En fait, si tu vas pour chercher une éponge et que si t'arrives dans le rayon éponge, bah il y a pas d'éponge, ça c'est un problème de catégorie. Si tu vas dans le rayon éponge et que tu vois qu'il y a un emballage tout moche qui dit pas vraiment les bénéfices du produit, pourquoi ce produit-là et pas un autre, bah tu vas prendre celui qui est à côté. Donc pour vous donner un peu une image, c'est ça qui se passe quand vous avez un profil qui n'est pas optimisé sur LinkedIn. C'est tout simplement vous passez inaperçu, vous n'êtes pas mémorable, vous n'allez pas vous créer une audience cumulée. Parce que l'intérêt de faire des posts, c'est d'avoir plus de followers pour aller créer du réseau et créer un effet cumulé qui fait que plus les gens s'abonnent, plus vous êtes montré à de nouvelles personnes. Donc vous passez à côté de l'effet cumulé. Et la dernière chose, c'est que du coup, les clients ne peuvent pas vous acheter parce qu'on ne comprend pas ce que vous faites. Donc première chose pour moi, c'est vraiment travailler l'optimisation du profil via ces éléments clés. Du coup, le positionnement, la catégorie, le unfair advantage, la preuve sociale. La deuxième action, c'est les interactions. On dit souvent, il faut commencer par se montrer. Moi, je pense qu'il faut commencer par écouter. Écoutez le marché, regardez les codes. Vous allez pouvoir à la fois faire votre veille et vous créer un réseau en commençant par donner. Au lieu d'être obsédé par vas-y, j'appuie sur le bouton bleu et je poste, qui est un peu la stratégie du poulet sans tête, qui court dans tous les sens, vous n'avez pas vu ma tête. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de créateurs aujourd'hui. C'est vrai, faut commencer par poster, mais si tu veux vraiment faire les choses dans l'ordre, optimisation de profil, stratégie de commentaires, tu connectes avec l'écosystème, tu te crées un réseau, tu commences à exister chez les autres en donnant, et là, paf, t'arrives avec une stratégie de publication. Donc, vu que tu as défini ton positionnement en amont, tu as tes piliers éditoriaux, moi, je vais savoir que, par exemple, aujourd'hui, je suis LinkedIn Top Voice, ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui, c'est les stratégies de croissance des entreprises. Ça, c'est mon positionnement. Et du coup, derrière, je sais que je vais parler de croissance, marketing, entrepreneuriat. Après, j'ai des thématiques qui sont plus niches, comme par exemple LinkedIn. Je suis spécialisée sur LinkedIn et le podcast. Donc là, déjà, tu as mes piliers éditoriaux. Je ne parle pas d'autre chose que de ça.
D'accord.
Donc, et c'est large, hein.
Oui, c'est déjà super large, mais au moins, tu as ces trois points. Tu interagis, bon, tu as le profil, tu interagis avec les gens ou tu interagis avec tes clients cibles. C'est-à-dire que, exemple, tes clients, c'est des RH, tu t'abonnes à tous les RH possibles. Et à chaque fois qu'ils postent, tu vas commenter ce qu'ils ont dit en disant, voilà, commenter leurs propos, que la personne voit ta tête. Attends, mais lui, il commente souvent ce que je dis. Ouais. Comment ça se fait qu'il commente autant? La personne va voir ton profil et les gens aiment que tu commentes, si tu commentes régulièrement leur travail, que ce soit pour, avec un compliment, forcément, le jour où elle voit que tu fais quelque chose, cette personne va venir te le demander ou au moins aller regarder ce que tu proposes. Et après,
exactement.
Effectivement.
Et le vrai gros hack là-dessus, je viens de donner un petit bonus pour la route, c'est au-delà de, alors faire un compliment, pourquoi pas, mais le vrai gros hack, c'est de poser une question. Parce que quand la personne engage avec toi, même sous ses commentaires, c'est-à-dire que là, Mohamed, moi, je vais poster du coup un commentaire sur ton profil. On ne se connaît pas, on n'est pas connecté. Je te mets un commentaire avec une question. Si tu me réponds, quand moi, je vais poster, tu vas voir mon post. Parce que le signal que tu as envoyé à l'algo, c'est « Ah, Caroline, she matters ». Donc, je lui accorde de l'attention. Donc, en fait, ce qu'elle fait m'intéresse. Et du coup, le vrai gros hack, si vous voulez vraiment avoir cette stratégie un peu boule de neige, c'est de poser un maximum de questions. Comme ça, vous avez un maximum de réponses et vous connectez pour de vrai avec les gens. Vous maximisez vos chances de faire des vues.
En plus, ce qui est fort, c'est que LinkedIn, c'est un des seuls réseaux où aujourd'hui, quand tu commentes ou quelqu'un commente, tout son profil voit toutes ces personnes qui sont, on va dire, c'est mis dans le fil d'actualité de la personne et donc tu peux toucher énormément de personnes. À différence de LinkedIn, c'est que ta communauté, je veux dire Insta, c'est ta communauté et autres. Là, LinkedIn a cette possibilité de, tu peux avoir 500 abonnés et avoir un post qui touche, je sais pas, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes assez simplement.
C'est moins vrai qu'avant ça. Petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent et il y a
une
bonne et une mauvaise nouvelle. première chose, c'est moins vrai qu'avant. Aujourd'hui, LinkedIn a resserré son algo pour avoir, en fait, pour éviter justement tout ce qui est pote d'engagement automatique, stratégie quanti, où les gens se disent plus t'as un gros réseau, plus ça va engager, vite, vite des automatisations, on y va comme un cochon avec des robots, tout ça. Donc LinkedIn, pédale douce, stratégie de rétro-pédalage, et ils ont dit, les gars, on va organiser notre algorithme davantage en fonction du graphique d'intérêt, donc interest graph, c'est-à-dire les centres d'intérêt versus ce qu'il y avait auparavant, social graph. Social graph, c'est on te montre du contenu par rapport à qui tu connais, qui connaît qui, d'où l'importance de plus t'as d'abonnés, plus t'as de réseau, plus en fait tu pètes. Versus, je veux voir du contenu niché, du contenu qualitatif parce que LinkedIn n'est pas TikTok. LinkedIn est le réseau social de la connaissance. Et du coup, shift, pivot d'algorithme. Et cette année, crise du reach, crise de la portée. C'était mon dernier épisode sur Marketing Square. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, je vous laisserai creuser. Mais l'idée, c'est LinkedIn aujourd'hui. Pourquoi il y a une réduction de portée? C'est parce que c'est moins en fonction de ton réseau. Donc, tu vas moins voir les activités des autres que tes centres d'intérêt. Donc, pour toi, ça va être, par exemple, la connaissance, le mindset, la psychologie, le podcast. Tu vas voir plus ça que les actualités de Caroline Mignot, même si tu la connais bien.
Ah, c'est pour ça que moi, déjà, j'arrivais pas à percer sur LinkedIn, mais là, c'est encore pire qu'avant.
C'est normal.
Déjà, moi, c'est le réseau où j'arrive pas à percer. J'ai pas dit que j'ai percé ailleurs, mais, j'ai 100 000 personnes sur Insta, 75 sur YouTube, TikTok, j'en ai 100 000. LinkedIn, j'en suis à 9 000, mais je galère, hein. Je suis 9 000, déjà, les 9 000, c'est comme si j'en avais eu 200 000. Tu sais, c'est incroyable.
C'est vrai que c'est plus dur, mais je t'avais pas menti. Je t'ai dit, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise nouvelle et je t'ai dit, en fait, là, le flic maudit de LinkedIn est sorti. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est exactement pour les profils comme toi. C'est que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour des profils qui n'ont pas tout un gros réseau, qui sont pas là depuis des siècles, d'émerger. Donc, l'opportunité, elle est énorme pour vous qui voulez vous lancer sur LinkedIn de rayonner auprès, justement, d'une audience qui partage vos centres d'intérêt. Il n'y a plus finalement de discrimination au capital de départ. Donc finalement, c'est les gros créateurs comme moi qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et les nouveaux comme vous ont un avantage distinctif. Donc allez-y, c'est le bon moment pour vous
Oh,
lancer.
je vais y aller, je vais essayer de percer. On va tout faire. On se refait un épisode dans un an et je te dis où j'en suis. Est-ce que je suis passé de 9 à 100 000? Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. On est illimité, donc on peut le faire. Bah déjà, merci pour tous ces enseignements concernant LinkedIn. Je pense qu'on nous a partagé plusieurs pépites. Et je voulais revenir sur le livre que tu es en train d'écrire, qui est From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux. On parle de LinkedIn et autres. Déjà, pourquoi aujourd'hui tu as écrit un livre déjà? Première question. Qu'est-ce que tu veux partager via ce livre?
J'ai écrit ce livre parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour les entrepreneurs, la marque personnelle était un atout incroyable. Moi, je suis arrivée, je suis repartie de zéro, j'avais pas de réseau en France. Je me suis pris la pire claque de ma vie, me suis retrouvée sur le carreau après 8 ans à créer un réseau, à me défoncer pour avoir un beau capital qui ne m'a jamais servi à rien. Et du coup, je suis repartie à zéro et je me suis rendu compte du pouvoir du personal branding pour, au final, tu vois, j'ai lancé 4 boîtes en 3 ans et elles sont toutes profitables et j'étais pas plus douée qu'une autre et j'étais plus brisée que les autres parce que c'était la pire période de ma vie. Et je me dis, en fait, waouh, j'ai mis le doigt grâce à la petite avance que j'avais parce que j'étais formée aux US et j'avais capté un peu des trucs qui ont mis des années à arriver en France. Le personal branding, ici, on y est à peine. L'influence B2B, ça commence. Moi, en fait, l'influence B2B, j'en ai fait pendant 10 ans aux US. Donc, si tu veux, c'est toutes ces logiques-là. C'est comme si j'avais fait un peu un voyage, si je m'étais offert un voyage dans le futur. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai plein de méthodes avant-gardistes qui permettent très vite d'arriver sur un marché et qui servent aussi, pas seulement les entrepreneurs, les gens qui sont en poste et en particulier les femmes qui ont du mal à se valoriser, qui ont du mal, même elles, à définir pourquoi moi et plus qu'une autre. Pourquoi est-ce que moi je mérite une augmentation? Pourquoi est-ce que moi je mérite ce poste? Pourquoi est-ce que moi je mérite de reconvertir maintenant? Et pourquoi j'en ai la capacité? Et en fait, ça, c'est dans la tête et c'est une question de mindset et c'est une question de positionnement. C'est de l'alignement, tu vois, aussi ce qu'on disait tout à l'heure en ouverture du podcast. Et j'ai voulu faire ce livre parce qu'aujourd'hui, j'ai mis au point une méthode qui permet de se personal brander, de craquer son positionnement, de commencer dès demain à mieux se valoriser, être plus à l'aise dans son expertise, comprendre comment se vendre et mieux se vendre. Et aujourd'hui, je la distribue dans des coachings qui sont pleins à craquer et je peux pas passer mon temps à faire des coachings. Et c'est, moi, j'aime trop être entrepreneur consultante. Pendant que je suis en train de vendre mon temps, je construis pas l'étape d'après. Et moi, dans la vie, mon objectif, c'est pas de m'en mettre plein les poches, c'est de faire des trucs de ouf qui me rendent fière et que je peux léguer à mes enfants. Et le consulting n'en fait pas partie. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, comment je peux scaler? Une formation en ligne, c'est cool, mais pour moi, la formation en ligne, ça reste peu accessible. Aujourd'hui, la formation en ligne, tu vas la mettre à un prix qui est entre 100 et 800 euros parce que tu peux pas faire moins, parce que c'est normal aussi, ça te coûte des frais de serveur, des frais de publicité. À côté de ça, un bouquin, ça vaut 15 euros, donc peut-être que ça va pas me rendre riche, mais comme je t'ai dit, c'est pas le but. Et la découvrabilité, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, la découvrabilité du bouquin, elle est ouf. C'est accessible à tous, mon bouquin, il va coûter 20 balles et t'auras pas besoin de payer 400 euros pour un coaching ou 150 euros pour une formation en ligne. Et j'adore parce que pour moi, c'est un outil démocratique qui va permettre à tout le monde de reprendre le pouvoir sur sa carrière.
Bon. Et surtout ça, après aussi, tout le monde apprend à te connaître grâce à ce livre. Je dis
Aussi.
tout le monde, il y a plein de gens qui peuvent apprendre à te connaître et tout le monde peut apprendre tes connaissances sans être à côté de toi. Tu lis beaucoup aujourd'hui ou pas?
Ouais, j'adore. Toi, t'as ta bibliothèque derrière. Moi, je t'ai emmené dans mon studio. Donc, il n'y a pas mes effets personnels. Mais moi, je suis le genre de personne, de mon côté du lit, je me fais tout le temps engueuler par mon conjoint parce qu'on peut pas marcher. Je lis 12 livres en même temps et ils sont tous au pied de mon lit parce qu'en fait, c'est genre, oh, je chope un truc, je me dis, ah, ça me fait penser à tel autre bouquin. Et en fait, de mon côté du lit, ils sont tous par terre parce qu'ils tiennent plus sur ma table de chevet. J'ai genre une dizaine de bouquins par terre. Et ça, Enfin, je pense, tu vois, on est dans le podcast Connaissances illimitées. C'est rigolo que tu m'aies trouvé parce que je me définis comme infinite learner. C'est un terme qui est un peu pompeux, mais c'est un peu, vous savez, les premiers de la classe, quand ils vieillissent, ça devient des infinite learners. Moi, en fait, ma passion, c'est l'apprentissage. J'adore ça.
Et pourquoi c'est aussi important pour toi d'apprendre?
Parce que je progresse dans toutes les sphères de ma vie, tu vois. Aujourd'hui, je suis en train de lire, par exemple, un livre qui s'appelle La clé de votre alimentation, La clé de votre énergie, pardon. C'est un bouquin qui parle de nutrition. Je m'intéresse de ouf à la nutrition. Je trouve qu'il y a une omerta, qui, parce qu'il y a trop de lobby, ça va nous emmener sur d'autres sujets. Et je veux pas vous embêter avec ça, mais au cas où, un instrument de croissance sous-exploité et que les entrepreneurs doivent maîtriser, c'est la nutrition. On se nourrit hyper mal, du coup on a des chutes de fatigue, on a des chutes d'activité pendant la journée. Moi, je suis diagnostiquée hyperactive. Donc en fait, si je fais pas attention à ce que je mets dans ma machine, je suis toute déréglée à la fin de la journée. Et tu vois, je m'intéresse autant à la spiritualité qu'à des sujets de nutrition, qu'à du sport, qu'à des bouquins business. Je lis aussi la biographie d'Elon Musk, même si je me dis ce type, il est fêlé. Mais je me dis, faut que je comprenne pourquoi il est fêlé. Et je veux quand même m'intéresser à lui, même s'il m'a dégoûté. Donc voilà, en gros, je prends un petit peu mes inspirations partout. Et je pense que, je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais j'ai la conviction que c'est ce qui fait qu'on est bon dans la création de contenu. C'est quand on est capable de, tu sais, d'aller chercher des refs un peu partout pour créer des connexions inédites.
Exactement. Et c'est quoi la dernière chose que tu as appris dans un livre?
Bah franchement là la clé de notre de votre énergie c'est en train de me mindfucker un truc de dingue j'adore et alors bon après j'ai toujours un peu de recul par rapport à ça parce que vous savez c'est les médecines alternatives donc tu vois là on se parle juste avant les repas de Noël il faut que tu m'y fasses penser Mohamed surtout ne pas parler de ce bouquin à la table de Noël parce que mes parents ça les fait vriller ils se disent à chaque fois mais celle-là c'est une vraie hippie elle va partir pour élever des chèvres oh yes.
Il y a ce livre là sur la, je sais pas si tu connais Glucorévolution, je l'ai aussi, mais
Ah.
moi celui-ci il est super bien. Glucose Goddess,
Trop cool.
c'est un livre sur la glycémie et du moins l'alimentation et les pics de glycémie et l'impact du pic de glycémie
C'est ouf.
sur la santé, sur l'énergie et tout ce qui ça impacte. Je sais pas si tu l'as lu, surtout le premier Glucorévolution. Si c'est pas le
Non, mais
cas.
j'en ai entendu parler. J'ai une amie qui en profite pour faire de la pub pour les copains qui sont entrepreneurs et qui font des choses bien. J'ai une amie qui s'appelle Raphaël Anolo qui a lancé Yacone. Et
D'accord.
en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est que justement, elle crée un supplément qui remplace le sucre pour les diabétiques. Et
D'accord.
figure-toi que c'est elle qui m'a initiée à ça. Elle a, tu sais, le petit capteur dans le bras pour mesurer pendant la journée le taux de glycémie qui évolue. Et petite spoiler alerte, du coup, des trucs que vous pensez sains, du genre le riz ou le pain blanc, c'est une bombe glycémique et ça va vous donner des variations d'humeur, de tout ce que tu veux.
Ouais, surtout le pain blanc. Le pain,
Tu vois?
déjà, le
Ouais.
pain, c'est une catastrophe. Après, nous, on a la chance en France d'avoir du bon pain. Quand tu pars à l'étranger, quand tu reviens, tu veux manger ta baguette ou du bon pain, mais c'est à manger avec modération parce que le pain, c'est une catastrophe pour la glycémie. Moi qui suis diabétique, je connais très bien tous ces trucs-là.
D'accord, ah bah, je savais pas que tu étais diabétique. Bah, raison en plus.
Depuis que j'ai 12 ans, ça fait longtemps.
Ouais, c'est ouf.
Et plus de 20 ans que j'ai ça. Et aujourd'hui, alors on parlait de ton livre, il est en précommande aujourd'hui, il sortira en avril, hein, donc en fonction de quand, avril 2024, en fonction de quand vous écoutez cet épisode, soit il sera déjà disponible, ou sinon on peut le retrouver en précommande sur ton site, comme ça on peut faire un petit appel à l'action et découvrir. Parce que,
Merci.
alors aujourd'hui, tu parlais de pourquoi tu l'as écrit, et pour toi, pourquoi c'est important d'être dans l'influence? Et tu parles de bâtir son influence et en quoi il faut qu'on soit dans cette démarche.
En fait, je pense qu'avec la globalisation, plus le temps passe et plus il va falloir qu'on soit très clair sur notre périmètre d'action. Et ça va nous permettre de, au lieu d'être un profil taboulé, c'est, tu sais, il y a à boire et à manger et du coup, t'es le truc le plus cheap du supermarché. Bah, en fait, la stratégie pour sortir du taboulé, c'est, ok, spécialise-toi. Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Et je pense qu'aujourd'hui, pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi beaucoup de personnes qui sont, tu vois, potentiellement en échec ou qui n'arrivent pas à réclamer une augmentation à leur boss ou qui n'arrivent pas à retrouver du boulot ou qui n'arrivent pas à retrouver du sens, bah souvent, C'est un problème de positionnement. Est-ce que tu as bien craqué en fait là où tu avais de la valeur et est-ce que tu as bien craqué ce qu'on appelle le monopole personnel? Le monopole personnel, c'est le croisement entre tes compétences, donc les choses qui sont un peu innées chez toi, ce que tu sais bien faire, ton expertise, donc les trucs que tu as appris à faire et là où en fait le marché a besoin de toi et ça se monétise bien. Et du coup, ce qu'il faut trouver, c'est
Ton
plein de...
ikigai entre...
Ouais, c'est exactement. Le monopole personnel, c'est un peu nuancé. Ça a été sorti par David Perel, mais effectivement, l'idée, c'est de toujours te sortir de, tu sais, cette logique où on se dit, ah, mais en fait, j'ai rien distinctif. Personne ne peut être toi mieux que toi. Point barre. Donc en fait, à partir du moment où tu craques le monopole personnel, c'est-à-dire ce que tu fais mieux que les autres, tu vois, moi, mon podcast Marketing Square, quand j'ai lancé un podcast marketing, on m'a dit, mais Caro, il y a plus de podcasts que d'auditeurs en France. C'était au moment du Covid. On m'a dit, haha, encore un podcast Covid, blablabla, il y a trop de monde. Et je me suis dit, non, je vais être le podcast du CEO au stagiaire qui invite pas que les mecs qu'on a déjà vus partout, que les mecs qui ont de l'audience. Et je vais faire un format 20 minutes qui tient dans la poche pour le matin pour que tu puisses passer ton MBA marketing en accéléré. Et tout de suite, en craquant un positionnement, j'avais tout de suite ma proposition de valeur, mon persona, le format qu'elle est avec, et le truc, il a décollé. Parce que, en fait, si tu commences par un bon positionnement, c'est valable pour tout dans la vie. Après, tout est facile. Trouver du boulot, c'est simple. Négocier ton augmente, c'est simple. En fait, quand tu craques, là où tu es meilleur qu'un autre, tu comprends pourquoi tu es indispensable, tu es plus épanoui, tu sais mieux te vendre et tu progresses plus facilement.
Oh. Super, super pertinent ce que tu viens de dire. C'est une masterclass et
Merci.
super pertinent. On arrive sur la fin, c'est presque 1 heure qu'on est ensemble, et encore quelques questions. Pour toi, c'est quoi ta plus grande réussite aujourd'hui?
Ma plus grande réussite, je pense, c'est d'avoir trouvé l'amour. C'est d'être, franchement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans l'entrepreneuriat, ce qui vous permet de passer les montagnes russes sans trop vous abîmer, c'est vraiment votre entourage et la confiance que vous avez en vous, c'est bien. Mais c'est important aussi d'avoir des gens de confiance autour de vous, d'avoir du soutien. C'est un métier très solitaire, c'est un métier très dur, très ingrat. Et franchement, mon compagnon, il est incroyable. C'est vraiment mon compagnon de vie. C'est aussi mon cofondateur. Donc faut le dire, hein. Quand je vous dis que j'ai tout subi dans la vie, je suis aussi tombée amoureuse de mon cofondateur. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais vous voyez, quand on fait les choses avec le cœur et en étant aligné, bah ça marche quand même. Et du coup voilà, je dirais que aujourd'hui c'est le truc le plus important dans ma vie, c'est d'avoir l'amour. Donc ayez, même si c'est une meilleure amie, un meilleur ami, mais ayez votre pilier affectif parce que il faut toujours être accompagné d'un totem. Vous pouvez pas vous en sortir tout seul, c'est trop dur.
Et c'est quoi ton plus grand échec?
Ah, je vais pas te sortir la soupe, même si maintenant tu as cramé que j'étais un peu américaine. Évidemment, j'ai envie de te dire, on dit pas échec, on dit apprentissage. Mon plus grand échec, le truc que j'ai, je pense que le domaine d'amélioration le plus important pour moi, c'est vraiment la gestion des émotions. Tu vois, je m'intéresse beaucoup au mindset et je lis beaucoup aussi La clé de votre énergie, tout ça, parce que je pense que j'ai une sensibilité qui est exacerbée, qui a été diagnostiquée. Ça va en général de pair avec le fait d'être 10, pour ceux qui connaissent, donc dyslexique, dyscalculique, dyspraxique, et aussi avec plein d'autres trucs sympas, neuropsy. Et je te dirais que aujourd'hui, le truc que j'essaye de craquer, c'est comment avoir une gestion de mes émotions plus stable et réussir à être tout le temps d'humeur égale alors que le sol, il tremble sous mes pieds. Aujourd'hui, j'ai 4 boîtes. Il y en a une, c'est un modèle agence. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de tirer la sonnette d'alarme, d'envoyer un email avec marqué urgent. Faut réussir à pas te faire avoir par le stress, continuer d'être un élément moteur, même quand, en fait, tu sens que la locomotive, il n'y a plus aucun wagon qui suit. Et du coup, cette capacité, tu vois, d'avoir la ressource inépuisable en toi, de continuer, de garder toujours le sourire, la pêche, continuer à être un moteur d'inspiration pour les autres, je pense que c'est ça, ma zone d'amélioration, en tout cas, là où je veux progresser, gestion des émotions. Pour moi, c'est mon principal défi. C'est hyper dur tous les jours.
Pense que beaucoup d'entrepreneurs doivent beaucoup travailler sur la gestion des émotions. Et c'est un vrai sujet hein, pour quand t'es entrepreneur, parce que c'est souvent les montagnes russes. Tu peux être tout en haut et juste après être tout en bas. Et comment, quand t'es en bas, t'arrives à remonter rapidement, et quand t'es en haut, tu gardes les pieds sur terre pour continuer. Et ma dernière question, la question que j'aime bien poser à la fin, et que je pose toujours, si t'avais la Caro de 15 ans, 16 ans devant toi, et avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Si tu l'avais devant toi et tu voulais lui donner, partager un enseignement, partager quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Oh, laisse-toi le temps. Tu sais, moi, je parle toujours de, dans mon métier, marketing de performance, il faut faire les choses vite et tout. Le succès, il arrive vite, mais il se prépare pendant longtemps. Et je dirais, ben, en fait, laisse-toi le temps. Il faut passer à l'action, c'est important, mais par contre, laissez-vous le temps pour réussir. Mon premier live, il a pas pété. Mon premier post Instagram, il a fait un bide. Mon premier post LinkedIn, c'était la honte. C'est OK, en fait, ça, c'est le chemin. Donc, je pense qu'il faut se tranquilliser là-dessus. Et je vois beaucoup de gens sur les réseaux, tu vois, qui, au final, sont assez déprimés parce qu'ils se comparent, parce que, ils sont jamais assez contents de leurs résultats, parce que ça prend du temps. Et en fait, franchement, le message que j'ai envie de vous adresser, c'est déjà, vous faites de votre mieux, c'est déjà bien. Être dans l'action, c'est déjà un accomplissement. Donc après, faut être gentil avec soi-même et procéder par étapes et arrêter de croire tout ce qu'on lit sur LinkedIn. Il y a beaucoup de storytelling là-dedans. Les vrais, peut-être, qui pètent d'un coup, mais le secret des gros lancements, c'est des gens qui ont déjà lancé 10 fois et qui se sont pris des murs. Et ils ont appris, ils ont compris.
Exactement. Ils ont appris, ils ont compris. Merci pour cette phrase juste incroyable et pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette heure et pour tous les enseignements que tu nous as donnés pendant ce podcast. Bien sûr, je vous invite, si ce podcast vous a plu, à le partager à un maximum de gens autour de vous, à commenter sur YouTube la vidéo et également sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles. Est-ce que Caroline, tu as quelque chose à rajouter un sujet que tu aurais aimé aborder ou quelque chose que tu aurais aimé dire, qu'on n'a pas eu le temps de dire et que tu voudrais absolument partager?
Franchement, si jamais il y a quoi que ce soit dans mon discours qui a allumé une petite lanterne, le podcast c'est un média froid et du coup n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos retours sur l'épisode. Est-ce que ça a résonné chez vous? En fait, nous on parle pendant 1 heure en espérant que ça crée des déclics. Et ben dites-le nous si ça crée des déclics ou même si ça n'en crée pas. Mais n'hésitez pas. En tout cas, on fait ça pas pour s'écouter parler, mais vraiment pour connecter avec vous. Donc envoyez-nous un petit message avec vos retours. Moi, en tout cas, j'adore lire les messages et je vous répondrai avec grand plaisir.
Également, merci beaucoup. Et on mettra l'ensemble des réseaux de Caroline sous l'épisode pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose, que ce soit sur Instagram, LinkedIn et également son site internet. Merci encore à Caroline et comme je dis toujours, je suis, tu es. Nous sommes tous illimités.